Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseau. On arrive enfin à la période de l'année la plus attendue des ornithologues. Les premières parulines sont probablement déjà passées dans vos jumelles ou vont l'être très bientôt, tout dépendant d'où vous vous trouvez sur leur chemin vers le nord. J'imagine que certains d'entre vous vont peut-être même écouter cet épisode en route vers une sortie d'ornithologie, alors on vous souhaite bien entendu des belles observations. Pour l'instant, de mon côté, je n'ai vu que des parulines à croupions jaunes, j'ai pas les autres espèces, mais j'imagine que ça ne saurait tarder et que plusieurs autres espèces viennent à moi d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, on vous présente un épisode en deux temps. Tout d'abord, je vais m'entretenir avec Laura Push, qui prend les rênes d'un programme de sciences citoyennes très intéressant qui porte sur une espèce qui vous tient, je crois, tous à cœur, le plongeon huard. Ensuite, je vous partage les résultats d'un petit jeu statistique auquel je me suis livré après avoir lu un article assez amusant sur la page Facebook de Québec Oiseau. Alors, je suis ici à Montréal dans les nouveaux bureaux de Québec Oiseau avec Laura Push, qui est employée pour Québec Oiseau. Laura, peut-être parle-nous déjà de ton parcours, combien ça fait de temps que tu es engagée à Québec Oiseau, qu'est-ce que c'est ton rôle au sein de l'organisation?
Oui, ben bonjour tout le monde. Alors moi, je travaille pour Québec Oiseau depuis février, donc ça fait comme 2 mois. Donc c'est tout récent, mais je sors des études. Avant ça, j'ai fait 2 maîtrises en France, puis ici à Montréal, en écologie comportementale plus particulièrement. Je m'intéressais au comportement de certaines espèces d'animaux sauvages.
Et puis, donc ça fait pas très longtemps en fait finalement que tu te consacres aux oiseaux, puisque tu travaillais avant sur les mammifères. Déjà, bienvenue à Québec Oiseau. Et puis, aujourd'hui, on est là pour parler d'un programme spécifique qui touche peut-être un des oiseaux les plus emblématiques du Québec et du Canada. Peut-être que tu peux nous le présenter.
Oui, tout à fait. Donc, à mon arrivée à Québec Oiseau, j'ai eu l'honneur de rejoindre le programme d'inventaire sur les plongeons huards. Donc, je suis sûre que vous connaissez tous cette espèce emblématique du Canada et d'Amérique du Nord, plus généralement. Donc, il est facilement reconnaissable avec son plumage, avec le dos mosaïque blanc et noir, sa tête toute noire, son bec noir aussi, puis son petit collier rayé. C'est un oiseau qu'on retrouve à peu près partout au Canada, ainsi qu'un peu aux États-Unis.
Oui, de ce que j'avais lu, en fait, 90% des couples nicheurs nichent au Canada.
Oui.
Donc, lorsqu'on le met sur la pièce de 1$ comme un oiseau vraiment représentatif du Canada, il y a une bonne raison pour ça. Donc, finalement, c'est vraiment la plupart de ces oiseaux-là nichent chez nous. Et puis au Québec, qu'est-ce que c'est son aire de répartition à peu près?
Au Québec, on le retrouve pas mal partout dans la zone plus méridionale du Québec.
Donc à l'exclusion du Grand Nord.
C'est ça.
Je sais que j'avais lu en tout cas aussi que on n'en a pas beaucoup dans la plaine du Saint-Laurent, là, donc dans les lieux qui sont plus habités le long du fleuve, mais à partir du moment où on sort des basses terres. Là.
C'est ça. Pour la période de nidification, il va viser vraiment plutôt les lacs, un peu de toute taille, mais surtout au-delà de 24 hectares de grandeur. Puis c'est pas mal les lacs en forêt.
Oui, donc alors, à quoi ça ressemble ces besoins? Parce que bon, on parle d'un inventaire, on va parler du programme un peu plus en détail après. Mm-hmm. Le plongeon huard, de quoi il y a besoin exactement pour nicher? À quoi ça ressemble une nidification typique pour le plongeon?
Donc ça, le plongeon va se retrouver donc sur les lacs, mais ça peut être les baies où il y a quand même pas mal d'espace. Il peut y avoir aussi, ça peut être aussi simplement des milieux humides de 10 hectares ou quoi. Mais voilà, et puis c'est le mâle qui va choisir l'endroit pour la nidification en général. Donc ça va être près de l'eau, sur la terre ferme ou sur la rive du Nil. mais vraiment proche de l'eau parce que c'est des oiseaux qui ne peuvent pas vraiment se déplacer sur la terre avec leurs pattes qui sont placées très en arrière du corps pour pouvoir se propulser dans l'eau. Donc il y a vraiment une nécessité que le nid soit proche de l'eau. Et puis à ce moment-là, le nid va être assez rudimentaire. Ça va être juste une simple coupole peu profonde ou une dépression faite au sol. Il peut parfois être fait de végétation entassée aussi.
C'est vrai que j'ai jamais vu un plongeon huard marcher. Ça, je pense qu'ils sont vraiment pas capables de le faire. Alors, une fois que le nid est construit, les petits vont rester combien de temps à peu près au nid? Combien il va y avoir d'œufs aussi dans une couvée typique?
En général, un couple va faire 2 œufs, puis la couvaison va durer quelque chose comme 26 à 31 jours. Donc c'est une espèce nidifuge, ça veut dire que les jeunes vont être capables de quitter le nid et de nager peu de temps après l'éclosion des œufs. Ensuite, les petits vont quand même être très dépendants des parents pendant quasiment tout l'été. Les parents vont les nourrir. Ils vont même, pendant les 3 premières semaines, les transporter pas mal sur leur dos pour se déplacer. Ça leur permettra d'économiser de l'énergie, de se reposer.
Oui, de se réchauffer probablement, parce que le lac des Laurentides typique, ou enfin, je sais que j'avais lu que c'est dans les Laurentides, en Abitibi, puis même sur la côte nord, là, où il y avait vraiment des fortes concentrations de ces oiseaux-là. Et puis donc, il ne va pas être à 38, 39 degrés comme la température des oiseaux, donc j'imagine que ça les réchauffe aussi un petit peu.
Puis c'est ça, et ensuite les petits vont pouvoir voler peut-être au bout de 2-3 mois, quelque chose comme ça.
Et puis donc, qu'est-ce que ça va être son alimentation principalement au huard? Donc de quoi il a besoin en termes de ce qu'il va y avoir dans un lac typique qui va accueillir un huard?
Comme son nom l'indique, le plongeon huard est un oiseau plongeur, c'est un bon plongeur, il va pouvoir se propulser dans l'eau avec ses pattes et il a une très bonne vision sous l'eau, ce qui va pouvoir lui permettre de capturer des petits poissons pour se nourrir. Il va aussi pouvoir se nourrir d'invertébrés comme des sangsues ou des larves d'insectes, puis de quelques plantes aquatiques.
Et puis les petits vont se nourrir aussi de la même chose, c'est-à-dire que les parents les nourrissent après la naissance?
C'est ça, les parents vont les nourrir après la naissance, donc voilà, tout ce qui est petits poissons, tout ça.
Je sais qu'on voit souvent ces photos-là, en tout cas c'est toujours très mignon. Vous êtes certainement capable de les trouver avec une recherche Google, des photos justement de parents huards avec les petits qui sont sur le dos, qui sont transportés. Là, des fois je suis juge pour des concours de photographie d'oiseaux, puis on les voit souvent, c'est parmi les sujets favoris des gens. Puis évidemment, bon, je pense qu'on n'a pas besoin de vous faire un dessin. Le plongeon huard, c'est un oiseau vraiment magnifique, là. C'est très très beau, donc les gens sont vraiment fans de ça, puis des paysages aussi où on les retrouve, les lacs avec la forêt derrière, c'est aussi quelque chose que les gens aiment beaucoup prendre en photo. Peux-tu nous parler peut-être un petit peu plus du programme en question auquel Québécoiseau participe?
Oui, tout à fait. Donc, ce programme s'appelle l'Inventaire canadien des plongeons huards. Donc, c'est un programme qui a été développé par Oiseau Canada, en fait, en 1981. D'abord juste en Ontario, puis il a été étendu au reste du pays dans le début des années 90. Donc c'est un programme de science participative, probablement le plus ancien et le plus populaire d'Oiseau Canada. Il a permis de récolter quand même beaucoup de données en 30-40 ans et donc beaucoup des connaissances qu'on a maintenant sur l'espèce proviennent des données récoltées par les citoyens scientifiques, les personnes qui participent en fait à cet inventaire. Les objectifs de cet inventaire, ça va être d'évaluer les tendances puis la productivité des plongeons huards, donc le nombre de jeunes que les couples produisent chaque année, qui permet ensuite d'évaluer et de déterminer en fait les facteurs qui vont influencer les populations. Et le but, finalement, c'est de préserver l'espèce et de sensibiliser le public face à l'importance du huard et puis de la santé des lacs.
J'imagine, je pense que tout le monde, si on disait, on vous demandait de trouver un plongeon huard pour aller le regarder, tout le monde aurait une idée de... Bon, je connais un lac, il neige pendant l'été, ou vous avez un chalet peut-être sur le bord de l'eau, puis donc tout le monde sait très bien où trouver un plongeon huard. Maintenant, si je vous disais, OK, je veux savoir combien il y a de plongeons huards dans les Laurentides ou en Abitibi, ben, le temps de trouver un premier plongeon sur un lac, puis de passer au lac suivant, puis de passer au lac suivant. Vous pouvez très bien imaginer que ça serait très fastidieux, en tout cas, de mener un dénombrement comme ça. Là, on n'est pas comme sur des statistiques qui sont faciles à faire. Il faut faire des inventaires en avion, sinon on veut vraiment bien les compter. Donc, à ce moment-là, j'imagine que c'est vraiment un cas où la science citoyenne est utile. Donc, chacun a son plongeon, peut observer son lac, puis ben, comme ça, on a une quantité de données qui serait très difficile ou très fastidieuse à obtenir. Imaginez combien de lacs vous êtes capable de faire en une journée, là, ce serait pas plus que 3-4 peut-être. Donc, c'est vraiment compliqué pour des biologistes de commencer à dénombrer tout ça, là.
C'est ça, exact. Ce programme-là marche quand même fort. On compte peut-être plus de 4000 participants depuis sa création. Puis l'année dernière, par exemple, il y a eu plus de 500 participants sur le Canada. Donc ça permet quand même d'avoir un jeu de données assez important. Mais ça, l'idée d'Oiseau Canada, en nous contactant chez Québec Oiseau, c'était de pouvoir augmenter en fait la participation au Québec, qui est encore assez faible, parce qu'au final, on a une présence du plongeon huard qui est quand même importante au Québec. Oui. Mais voilà, on estime à peu près 50 000 couples de plongeons huards au Québec sur les 240 000 estimés au Canada. Okay. Mais l'année dernière, on a eu moins de 50 participants au programme au Québec. Donc c'est pour ça que Oiseau Canada a fait cette démarche de nous proposer ce partenariat. Puis donc Québec Oiseau et moi notamment, je suis vraiment motivée à recruter du monde et puis à motiver les Québécois à participer au programme.
Puis donc, explique-nous maintenant comment ça fonctionne. Alors, si j'ai un chalet sur un lac, je sais qu'il y a des plongeons huards qui viennent pendant l'été. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement si on veut participer à ce programme-là?
Ben alors, c'est assez simple, en fait. Tout ce qu'on demande, ça va être de passer au moins 3 jours à explorer le lac ou les lacs, hein, si vous voulez en suivre plusieurs, pendant l'été. Donc, ce sera au moins un jour en juin pour voir s'il y a des couples de plongeons huards sur place. Au moins un jour en juillet pour voir s'il y a des nouveau-nés, si le ou les couples ont produit des petits, et puis une fois en août pour voir si les petits vivent assez longtemps pour pouvoir ensuite prendre leur envol. Donc voilà, donc tout ce que ça demande, ça va être de s'inscrire en ligne, puis d'indiquer quel lac vous allez suivre en fait. Ça peut être aussi très bien une section de lac seulement sur un grand lac, admettons. Après, toutes les ressources sont disponibles en ligne, puis vous sont envoyées avec les instructions de comment faire le suivi, mais voilà, c'est ça. Essentiellement, ça demandera juste de remplir un formulaire qui vous demandera le nombre de couples, le nombre de jeunes observés.
Ah oui, ok. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on observe au mois d'août, les petits sont rendus assez vieux qu'on peut supposer qu'ils vont survivre puis ils vont partir vers le sud s'ils sont encore là, finalement.
Exact. Donc, c'est ça, la mesure qu'on cherche à avoir, donc c'est la productivité. Et dans ce cas-là, ça va être vraiment le nombre de jeunes qui atteignent 6 semaines, en fait. Parce qu'à 6 semaines, on estime que le jeune est assez grand, assez fort et assez débrouillard pour limiter les risques de prédation et puis qu'il va pouvoir se rendre au stade d'adulte. Et donc ça va nous donner une bonne indication sur en fait, l'évolution et les tendances au niveau de la population adulte des plongeons huards.
Donc aussi, j'imagine, en regardant en juillet puis en août, donc on peut savoir si finalement c'est la nidification elle-même, c'est-à-dire si on voit le couple en juin, mais qu'en juillet, il n'y a pas de bébé, on peut se dire « ok, donc il y a eu un problème, il y a quelque chose qui les a empêchés de nidifier ». Puis si, sinon, ben, si on voit les bébés en juillet, mais qu'on ne les voit pas en août, c'est comme « bon, ben, à ce moment-là, on a un problème au niveau de la survie des jeunes », si je comprends bien.
C'est ça. Et puis même, ce sera même intéressant de savoir si, par exemple, un lac où il n'y a pas du tout de plongeon huard qui est observé, à ce moment-là, on pourra s'intéresser à pourquoi ce lac n'est pas propice peut-être pour le plongeon huard.
Ah oui, donc on peut faire un suivi finalement, même si on n'a pas de plongeon huard sur le lac.
C'est ça. Donc essentiellement, l'idée, c'est que tout lac suivi dans la zone de répartition du plongeon huard au Canada est considéré comme un ajout important au jeu de données.
Ah oui, donc c'est ça, parce que même les données nulles, de dire « bon, ben écoutez, moi j'ai un lac, je suis dans les Laurentides, Ben, après, on peut les regarder puis dire, bon, ben, ça fait quelques années, il n'y a jamais eu de plongeons qui ont niché là, puis on peut savoir, ben, qu'est-ce qui fait que ce lac-là n'est pas propice. C'est quand même intéressant. OK, c'est quand même. En ce moment, qu'est-ce que c'est la situation des effectifs de plongeons huards? Quelles sont les tendances pour cette espèce-là?
Alors, la population est pas encore en déclin, mais depuis ces 30 dernières années, on a quand même remarqué une productivité en diminution. Oiseau Canada a publié un rapport pour les 40 ans en fait du programme qui résume un peu les résultats des études qu'ils ont menées à partir des données collectées dans le cadre du programme. Et les études montrent qu'il y a une diminution d'environ 1,4% par couple chaque année à l'échelle du pays.
Oh,
Donc,
1% par année, c'est quand même une grosse diminution, non? Ça va descendre assez vite quand même.
c'est ça. Donc, au début des années 90, on comptait en moyenne 0,7 jeunes par couple par année. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 0,55 par couple par année en moyenne. Donc, si cette tendance se maintient, en fait, on estime qu'en dessous de 0,48 jeunes par
Par
couple
couple.
par année, on va avoir peut-être un déclin qui va s'amorcer au niveau de la population des plongeons huards. Et d'ailleurs, c'est en fait déjà le cas dans certaines régions du Canada où la productivité
Et
est en dessous
passer en dessous, ok.
de ce seuil. C'est ça.
Je sais que je me souviens, en tout cas, des fois, peut-être que vous avez eu cette expérience-là. Je me souviens d'être allé des fois dans des parcs nationaux en juillet pour la villégiature, tout simplement faire du camping. Puis lorsqu'on voit beaucoup de plongeons huards sur le lac, les gens s'extasient, disent « Ah, c'est super, regardez comment c'est beau. » Puis disons, les biologistes qui travaillent pour certains parcs vont nous dire ben, « C'est un très mauvais signe finalement. » C'est-à-dire que à partir du moment où les plongeons commencent déjà à se réunir au mois de juillet, c'est qu'ils ont essayé de nicher, ça a été un échec. Puis bon, ils ont abandonné l'idée pour l'été, donc il faut pas se réjouir finalement d'en voir plusieurs comme ça sur des lacs, les grands lacs qui sont très productifs, là.
C'est ça. Les mâles sont quand même territoriaux, donc il y aura un couple a besoin de son espace. À partir du moment où il n'y a plus de deux plongeons huards dans une même zone, c'est que c'est des individus non reproducteurs finalement.
J'avais vu même que c'était des oiseaux qui étaient capables d'être étonnamment violents les uns envers les autres. Là. Je pense que même les mâles sont capables de se tuer
Oui, c'est ça.
s'ils défendent leur territoire. Là. Le bec est quand même est assez gros. Là. Je sais pas si vous l'avez en tête, là, mais c'est un bec qui fait assez peur. J'imagine si l'oiseau attaque, là,
C'est
ça peut
ça.
être évident.
C'est un phénomène qu'on observe qui est comme une danse en rond, on va appeler ça entre guillemets. Un intrus arrive sur une zone de nidification où il y a déjà un couple. À ce moment-là, il va y avoir des vocalisations qui vont être échangées. Il va y avoir comme une danse en rond des trois individus. Puis c'est ça, si l'intrus s'en va pas, à ce moment-là, il pourrait y avoir comme un combat, soit entre mâles, soit entre femelles, selon si l'intrus est un mâle ou une femelle. Puis ça peut parfois aller jusqu'à la mort du plus faible, quoi.
Oh, wow. C'est toujours la nature, hein, a toujours des côtés cachés comme ça qui sont un petit peu moins réjouissants que le chant le soir qui nous rappelle nos vacances d'été ou la vue de l'oiseau sur le lac quand on est en canot, puis qui est évidemment extraordinaire. Donc là, oui, derrière, il y a toujours une réalité un petit peu plus cruelle. Même si finalement ces oiseaux-là sont pas, ils ont pas d'éthique, ils connaissent pas la cruauté nécessairement, mais quand même, tu nous as dit que finalement les populations sont en déclin. C'est particulièrement important finalement. On pourrait pas trop insister là-dessus. Souvent lorsqu'on parle d'oiseaux puis de l'état des populations, les gens vont nous parler de ah, il y a 30 ans, il y avait tellement d'hirondelles ici, maintenant il n'y en a plus, c'est tellement triste. Ou, par exemple, je sais que c'est beaucoup comme ça avec les goglus. Les gens disaient, voyons, dans le champ à côté de chez moi, il y avait minimum 35 goglus tous les étés, puis là tout d'un coup ils ont disparu complètement. Puis, donc les gens ont des associations très fortes avec les espèces qui ont déjà décliné, mais des fois il y a des espèces comme ça qui sont très abondantes, des espèces qui font, on a l'impression qu'ils font partie de l'ADN du paysage québécois. Puis on se dit, c'est impossible que ça s'en aille parce que, bon, il y a tellement de lacs au Québec, que tout le monde connaît un lac où il y a des plongeons huards. Mais ça ne veut pas dire donc que ces espèces-là sont à l'abri. Puis on ne veut pas avoir finalement à prendre des mesures drastiques à partir du moment où la population est vraiment rendue très basse. L'idée, c'est de prévenir, de comprendre, puis de s'assurer que ça n'arrive pas, puis de pouvoir conserver l'espèce avant qu'elle soit menacée, finalement.
D'où l'idée du programme, c'est vraiment de faire un peu l'état des populations, puis de prévenir le déclin potentiel.
Est-ce qu'on a des idées des raisons, justement, de cette baisse de productivité? Est-ce qu'on a comme déjà des débuts de réponses, des hypothèses sur ce qui pourrait affecter les plongeons huards au Canada?
Oui, tout à fait. Donc, il y a des hypothèses. Après, il y a quand même des interactions assez complexes entre divers facteurs, pas encore très bien expliquées. Il y a tout d'abord des facteurs qui vont influencer, mais pas forcément causer le déclin, tout ce qui est par exemple perturbation d'origine humaine, donc qu'on va vraiment vouloir limiter avec l'aménagement des rives, la circulation des bateaux, ça va pouvoir dégrader les sites de nidification, voire même inonder certains nids avec la circulation des bateaux, créer du dérangement. Puis il y a aussi la température au début du printemps qui va augmenter les mouches noires qui vont déranger, diminuer le nombre de poissons, tout ça. Les facteurs qui, a priori, pourraient causer vraiment la baisse de la productivité, c'est tout d'abord les pluies acides, donc qui vont être causées principalement par la pollution de l'air, avec la combustion de combustibles fossiles notamment. Et donc ces pluies-là vont transporter en fait des métaux toxiques dans l'eau, ce qui va pouvoir causer potentiellement une diminution du nombre de poissons disponibles du coup pour le plongeon huard. Puis ça va aussi engendrer une augmentation de la teneur en mercure de l'eau, donc qui est un métal toxique, puis qui va donc intoxiquer les poissons et les huards. Chez les huards notamment, ça va provoquer des changements de comportement en fait. Les adultes vont devenir plus léthargiques, ils vont avoir tendance à défendre moins leur territoire, à moins couver leurs œufs et nourrir leurs petits.
Il faut imaginer aussi avec les métaux lourds ou le mercure, on parle d'un oiseau qui est quand même au sommet finalement de la chaîne alimentaire, qui va se nourrir des fois de poissons quand même de bonne taille. Donc en général, on appelle ça la bioaccumulation, c'est-à-dire que lorsque en bas de la chaîne, les végétaux commencent déjà à capter ces métaux-là, puis que les petits poissons mangent les végétaux, les gros poissons mangent les petits poissons, puis les huards mangent les gros poissons, bien, à chaque fois qu'on monte dans la chaîne alimentaire, ces métaux-là vont avoir tendance à se concentrer. Donc, les quantités, finalement, de métaux qui peuvent se ramasser chez des oiseaux qui vont se nourrir exclusivement de poissons peuvent être assez importantes. Je sais que nous-mêmes, ils nous recommandent de ne pas manger trop certains types de poissons lorsqu'il y a des risques de mercure. Même les pêcheurs savent ça aussi. Là, il y a des lacs qui sont particulièrement à risque. Mais évidemment, le huard n'a pas le choix. C'est ça son alimentation.
C'est ça. Mais c'est pour ça aussi que c'est d'autant plus intéressant de suivre les populations de huards, parce qu'en fait, avoir une idée de l'état des populations des huards va donner aussi une idée de l'état de santé des lacs au Canada de manière générale, étant donné qu'ils sont un prédateur primaire. En plus de tout ça, donc, il y a aussi le changement climatique, mine de rien, qui va intensifier tout ça, qui va augmenter l'acidité de l'eau puis la teneur en mercure à cause de l'augmentation de la température des lacs. Puis il va y avoir une intensification des fluctuations de niveau d'eau qui vont pouvoir faire baisser la productivité des huards, quoi.
Laura, j'espère que ça, en prenant conscience de tous ces problèmes potentiels pour le huard, ça vous donne envie, en tout cas, j'espère que ça ne vous fait pas peur, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui ont une association extrêmement positive dans leur tête avec la présence du huard autour d'eux. C'est vraiment comme le symbole de l'été québécois, là, si on veut, avec peut-être deux ou trois autres espèces. Donc, en sachant ça, qu'il y a quand même des menaces qui pèsent sur eux, ben, c'est important de recueillir le maximum de données puis essayer justement de freiner le déclin ou en tout cas d'éviter que le déclin s'amorce dans nos régions. Donc, j'espère que ça a donné envie à tout le monde de s'impliquer dans ce programme-là, d'y participer. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez le faire même si sur votre lac, il n'y a jamais un huard qui se présente puis que vous savez ce que ça va donner à l'avance. Donc, Laura, comment on peut accéder justement à l'information pour participer au programme?
Vous pouvez vous rendre sur le site de Québec Oiseau. On a une page dédiée au programme qui vous donnera toutes les informations nécessaires, puis les liens pour vous inscrire. Il suffit d'aller sur le site. Dans l'onglet de sciences participatives, vous trouverez la page du programme.
Donc, le programme va débuter... Vous pouvez débuter le programme cette année. Le podcast va sortir probablement vers la fin du mois d'avril, je l'espère. Mais donc, il est encore temps, ça c'est certain. Donc, on vous invite vraiment à vous y rendre. Écoute, Laura, merci beaucoup pour cet épisode-là sur le UVAR. C'était un vrai plaisir.
Merci à toi, puis merci à tous.
Récemment, un article publié par le laboratoire d'ornithologie de l'Université Cornell, qui est très célèbre puisque c'est le laboratoire qui héberge eBird, se posait la question du choix de chaque province canadienne d'un oiseau emblème. Comme vous le savez sans doute, l'emblème aviaire du Québec est le harfang des neiges. Il s'agit d'un choix qui est certainement logique en partie. L'hiver fait partie de l'identité québécoise. Le Québec se revendique toujours de sa nordicité. Alors choisir un oiseau qui est associé à l'hiver a un certain sens. En plus, le harfang des neiges est régulièrement observé dans le sud du Québec, avec des bonnes concentrations d'oiseaux certaines années partout dans la plaine du Saint-Laurent. Lorsqu'on voit l'émoi que provoque un seul harfang des neiges dans certains États américains, on peut dire qu'on est vraiment gâté de ce côté-là. Le harfang, ce n'est pas une espèce qui est rare chez nous en hiver. Par contre, ce n'est pas un oiseau qui niche dans le sud du Québec et pendant une bonne partie de l'année, c'est très, très difficile en tout cas d'y avoir accès. Il va seulement nicher dans l'extrême nord du Québec. Il s'agit aussi d'une espèce qui est circumpolaire, c'est-à-dire qu'elle fréquente toutes les régions polaires de l'hémisphère nord, tant en Amérique qu'en Eurasie, et donc elle n'est pas vraiment spécifique au Québec. Le Cornell Lab nous proposait donc une alternative, le Vireo de Philadelphie. Alors, pourquoi spécifiquement le Vireo de Philadelphie? Il faut savoir que le Québec abrite pas moins de 60% de la population nicheuse de cet oiseau. Et donc, le territoire québécois est essentiel au maintien de cet oiseau-là en santé, et on peut associer cet oiseau-là de façon beaucoup plus étroite, finalement, avec le Québec. On pourrait donc penser qu'il serait opportun de rendre hommage à cet oiseau en lui associant, en faisant l'emblème du Québec, bien qu'on comprenne les raisons qui ont pu faire tiquer les décideurs quand il est venu le temps de choisir l'oiseau emblème du Québec. D'abord, il faut commencer par le nom, qui est mal choisi, qui a été choisi à une époque où on donnait des noms un peu de façon frivole, mais on n'a pas trop le choix de le garder, en tout cas pour l'instant. Évidemment, nommer un oiseau de Philadelphie, le Vireo de Philadelphie, comme emblème aviaire du Québec, ça ne fait pas très logique, puis ça ne fait pas super chic. Ensuite, bon, évidemment, à mes yeux, tous les oiseaux sont beaux, mais on peut comprendre qu'il manque un petit côté marketing à l'apparence du Vireo de Philadelphie. C'est un oiseau qui est assez terne, il n'y a pas de caractéristiques ou de couleurs vraiment frappantes. Il a un peu l'air de la version par défaut d'un oiseau. On ajoute à ça deux éléments qui rendent sa détection quand même difficile pour les amateurs, surtout si vous êtes un débutant en ornithologie. Visuellement, c'est un oiseau qui ressemble quand même pas mal au Vireo mélodieux, qui est aussi très commun au Québec, et on imagine que plusieurs individus qui passent en migration vont être pris pour des Vireo mélodieux si on les regarde rapidement. Pour ce qui est de son chant, il est extrêmement difficile de le distinguer à l'oreille du chant omniprésent sur le territoire québécois du Vireo aux yeux rouges. Merlin, que plusieurs utilisent une application pour identifier les chants d'oiseaux avec l'intelligence artificielle, a d'ailleurs une fâcheuse tendance à entendre des Vireos de Philadelphie là où il n'y en a pas. Moi, il est régulièrement détecté autour de moi dans des régions où c'est le Vireo aux yeux rouges qui est commun. Et la plupart du temps, c'est effectivement des Vireos aux yeux rouges qui sont en train de chanter quand on finit par les apercevoir. Le Vireo de Philadelphie, c'est donc un oiseau qui est assez dur à identifier à l'œil et à l'oreille. Pour couronner le tout, c'est vraiment au cœur de la forêt boréale que cet oiseau est le plus commun en nidification, puis finalement, ça se trouve à être assez loin des plus grands centres urbains du Québec. La plupart des gens, en tout cas la plupart des ornithologues, ne voient donc pas cet oiseau sur une base régulière, comme il est remplacé dans nos forêts plus au sud par le Vireo mélodieux dans la plaine du Saint-Laurent, où se concentre la majorité de la population québécoise. Ce qui m'amène donc à un petit jeu auquel je me suis adonné, de trouver un oiseau emblème pour les différentes régions du Québec. Et là, spécifiquement, je me suis penché sur les MRCG, les municipalités régionales de comté géographique, qui est la façon dont eBird divise le territoire québécois. Puis en essayant de me poser la question, pour chacune de ces MRCG, qui comprennent les MRC et certaines municipalités qui sont hors des MRC, donc pour chacune d'entre elles, quel oiseau serait le meilleur emblème? Et donc, peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis un peu fan de statistiques. Je télécharge régulièrement des grands jeux de données sur eBird. Puis là, je fais toutes sortes de calculs avec Excel. Et j'ai donc construit un petit outil statistique pour comparer ces différentes régions québécoises. Puis donc, on va commencer aujourd'hui par les divisions territoriales qui ont le plus grand nombre de listes soumises sur eBird et probablement aussi le plus grand nombre d'ornithologues armateurs qui soumettent des listes sur eBird. Et sans grande surprise, bon, ce sont les territoires de Montréal et Québec qui comprennent évidemment les villes de Montréal et Québec, mais aussi dans les deux cas, les villes qui leur étaient anciennement fusionnées et qui ont ensuite défusionné, comme Saint-Augustin-des-Morts à Québec ou Pointe-Claire à Montréal. Dans les deux cas, j'ai essayé d'écarter des espèces introduites qui ne sont pas natives du Québec, qui sont pourtant communes en milieu plus urbanisé. Et j'ai essayé de me demander ce qui caractérisait vraiment les deux territoires, disons, les plus urbanisés du Québec. Et les oiseaux que j'ai choisis reflètent, je pense, la plus grande qualité qu'on peut apposer à ces territoires-là en matière d'ornithologie. Et c'est la grande concentration d'ornithologues sur ces deux territoires. Pour Montréal, le choix était vraiment assez facile. Alors que Montréal est peut-être la destination numéro 1 pour observer l'oiseau emblème que j'ai choisi. Et c'est un oiseau qui est chez nous à Montréal. Moi, je suis montréalais, vous l'avez déjà entendu à cette balado. C'est un oiseau qui est chez nous à l'année, le petit duc maculé. Le plus petit de nos hiboux a une aire de répartition qui atteint tout juste la grande région métropolitaine. Et c'est un hibou qui devient rapidement beaucoup plus rare dès qu'on s'éloigne, disons, de cette région-là vers le nord ou vers l'est. Et les mentions récentes les plus à l'est du Québec sont autour de la ville de Québec et en Beauce. À Montréal, il y a plusieurs couples qui nichent dans des grands parcs urbains facilement accessibles. Et ce qui les rend encore plus accessibles, c'est que la densité d'ornithologues rend l'espèce plus facile à observer. Dans certains parcs, il y a des dizaines de trous où l'espèce peut se cacher, où on peut l'observer, disons, qui sont connus des observateurs locaux. Puis lorsqu'on arrive dans ces parcs-là, il n'est pas rare que quelqu'un ait déjà trouvé un de ces hiboux et qu'il soit en train de le prendre en photo, par exemple. C'est un peu la même réflexion que j'ai eue en regardant les résultats pour la ville de Québec, disons, la ville étendue de Québec. La ville de Québec connaît un hiver un peu plus long qu'à Montréal, et ces boisés ne sont pas fréquentés par le petit duc maculé. C'est donc plutôt le grand duc d'Amérique qui, à mon avis, et d'après l'avis aussi de mon outil statistique, ferait le meilleur emblème aviaire de Québec. Quand on observe la carte de répartition de l'espèce, on se rend compte que presque tous les espaces verts de bonne taille à Québec ont accueilli, à un moment ou à un autre, un grand duc de passage ou un grand duc pendant tout un hiver, une année ou l'autre. Alors que la ville accueille aussi un des clubs d'ornithologie au membership le plus imposant, le grand nombre d'ornithologues qui vivent à Québec offre la possibilité d'observer cet oiseau majestueux aisément lorsque plusieurs personnes partent à sa recherche un samedi matin de janvier. En parlant de ces deux hiboux, j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler de toujours rester particulièrement respectueux dans vos observations de ces espèces sensibles au dérangement. On a déjà enregistré un épisode de la balado-diffusion où on donnait un espèce de code de conduite sur l'observation des strigidés. Je vous invite à le consulter au besoin. Alors, au prochain épisode, je vous proposerai donc de continuer cet exercice et peut-être si votre région arrive bientôt, vous pourriez aussi vous pencher sur cette réflexion amusante, essayer de vous demander quel oiseau serait le meilleur emblème pour ma région, pour ma MRC. Alors, les 5 prochaines régions qu'on va traiter la semaine prochaine comprennent 2 MRC très importantes pour la recherche sur les oiseaux au Québec et très populaires comme destination ornithologique, soit Rimouski-Neigette et la Haute-Côte-Nord, où dans ces deux régions, il y a un observatoire d'oiseaux très réputé. Et les 5 prochaines régions comprennent aussi 3 autres municipalités qui ne sont pas des MRC et qui sont parmi les villes les plus peuplées du Québec, c'est-à-dire Laval, Gatineau et Saguenay. Alors, si vous habitez dans une de ces régions-là, que vous avez un oiseau particulier, je vous invite à réfléchir à quel oiseau devrait représenter votre région. Et c'est ce qui met donc fin à notre épisode. Québec Oiseaux et la Société de biologie de Montréal invitent les ornithologues au Parc Jean-Drapeau le 13 mai pour une journée d'activité et de découverte pour la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Au programme, des visites ornithologiques guidées, un atelier sur les milieux humides et des activités interactives pour toute la famille. Les visites guidées sont gratuites, mais les places sont limitées. Les gens doivent donc s'inscrire rapidement sur le site web de Québec Oiseaux. Je vous fais un rappel pour mentionner qu'il n'est pas trop tard pour inscrire et former une équipe pour le Grand Défi de Québec Oiseaux qui a lieu en mai, ou pour faire un don à une équipe existante. Ces dons serviront à soutenir des initiatives de conservation des oiseaux dans toute la province. Finalement, Québec Oiseaux et la CEPAC collaborent encore cette année pour organiser une journée dédiée aux oiseaux et à l'ornithologie dans presque tout le réseau de la CEPAC. Des randonnées guidées par des guides naturalistes de la CEPAC, des membres de Québec Oiseaux, des membres des clubs d'ornithologie locaux permettront de faire découvrir les oiseaux dans les différents parcs nationaux du Québec. L'inscription est aussi obligatoire, toujours sur le site de Québec Oiseaux. Et je mentionne en même temps que je guiderai moi-même un groupe au Parc national des îles de Boucherville, qui est évidemment le parc national de la CEPAC le plus proche de chez moi à Montréal. Ce qui met fin aussi au message. Alors je vous souhaite à tous un très agréable mois de mai, un printemps superbe, et on se revoit très bientôt.